Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un jeune homme qui n'en finit plus de faire trembler la monarchie britannique.
No one knows the full truth. We know the full truth.
Cette voix, c'est celle d'Harry, le fils du roi Charles III et de Diana. Personne ne connaît la vérité. Nous la connaissons, dit-il, dans la bande-annonce de la série documentaire diffusée sur Netflix et dans laquelle le couple Harry et Meghan entend donner sa version des faits après son départ pour les États-Unis, après avoir renoncé à leur fonction aussi au sein de la monarchie. Alors plus que ce documentaire, ce qui m'a interpellée, moi, c'est l'analogie entre la communication d'Harry et celle de sa maman Diana quand son couple battait de l'aile et après son divorce, le fils cadet de la princesse des cœurs mène-t-il le même combat contre la monarchie et ses travers? Y a-t-il là une forme d'héritage? C'est ce qu'on va voir avec Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Salut à toi.
Salut, bonjour à tous.
Et avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, partenaire de RTL pour tous les sujets liés à la monarchie britannique. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez évidemment toutes les deux regardé les trois premiers épisodes de cette série dont on va écouter un premier extrait.
Je crois que les membres de ma famille, en particulier les hommes, peuvent avoir la tentation ou se sentir obligés d'épouser une personne capable de se fondre dans le moule. Ils prennent leurs décisions en écoutant leur raison plutôt que leur cœur. Or, ma mère s'est laissée guider par son cœur quasiment toute sa vie. Et je suis le digne fils de ma mère.
Je suis le digne fils de ma mère, dit donc Harry dans cette série documentaire. Diana, Marie d'ailleurs, elle est omniprésente hein, tout au long de ces trois premiers épisodes.
Il y a effectivement des images d'archives un peu partout, effectivement, notamment pour illustrer la poursuite des paparazzi et faire des parallèles avec Meghan. Mais il y a aussi cette scène qui est a priori filmée par Harry sur son téléphone portable, puisqu'il y a beaucoup d'images qui sont filmées par le couple qui se filme eux-mêmes, notamment donc Meghan qui tient le petit Archie, a priori, en train de lui montrer une photo de Diana en disant « c'est grand-maman, c'est mamie ». Donc un moment un petit peu émotion, comme il y en a un petit peu justement un peu partout dans ce documentaire, mais clairement il y a un effort pour Harry de tirer un parallèle entre lui et sa mère, avec notamment les extraits qu'il y a de lui en Afrique dans le Lesotho, et puis surtout beaucoup plus clairement des parallèles entre sa mère et son épouse. D'ailleurs il le dit très clairement.
Meghan a beaucoup de points communs avec ma mère. Elle lui ressemble énormément. Elle a la même compassion, la même empathie, la même assurance. Elle est tellement chaleureuse.
Est-ce qu'il y a là, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, une forme de revanche familiale pour Harry, plus que personnelle finalement ?
Oui, Harry est clairement le digne héritier de Diana. La seule difficulté, c'est qu'on a l'impression que là, c'est quasiment de la confiscation de Diana, comme s'il était le seul fils de Diana. Et c'est un peu compliqué de dire, par exemple, que William ne suit jamais son cœur, que Kate non plus. Ils ont tous été très influencés par le vent de modernisation qu'a insufflé Diana, avec après les excès qu'on a connus, malheureusement. Mais cet héritage-là, il est partagé par tous les enfants, petits-enfants, qui le chérissent. Et on voit en permanence tant Kate que Meghan faire des signes dans leur habillement, dans leurs bijoux, dans leur attitude envers leur belle-mère disparue. Donc oui, il essaye de se mettre sous la protection de Diana pour expliquer ses actions qui sont quand même, il faut le rappeler, très très critiquées par toute une partie de l'opinion publique britannique, pour justifier ses décisions, mais il n'a pas le monopole de Diana et il n'a pas le monopole du cœur.
Ouais, c'est mettre sous le patronage finalement de sa maman, mais c'est une façon aussi de poursuivre son combat quand il prend la parole, quand il multiplie aussi comme ça les prises de parole et les apparitions.
Oui, alors c'est vrai qu'il a beaucoup poursuivi l'œuvre de Diana. Tout ce qui est raconté dans le documentaire sur son action en Afrique, la création de sa fondation, fondation Sainte-Balle qui l'a fait très très jeune, à 20 ans, où les autos, c'était quelque chose de formidable. Ce qu'il a fait avec les Invictus Games aussi, on sait que c'est quelque chose qu'il partage avec Meghan, qui elle aussi a été très investie dans des actions caritatives bien avant de rencontrer Harry. Néanmoins, ça devient beaucoup plus compliqué quand il rentre dans leur intimité, qu'il donne effectivement des photos de leurs enfants, qu'il se montre, on voit Meghan avec les cheveux mouillés dans une serviette de salle de bain, parlant au lendemain de son dernier engagement pour la famille royale face à la caméra, où elle s'auto-filme. Enfin, ils permettent qu'on rentre très loin dans leur intimité, tout en ayant un discours qui explique qu'ils sont partis du Royaume-Uni et qu'ils ont quitté la famille royale pour avoir une intimité. Donc, cette contradiction-là, elle existait déjà chez Diana. Diana a cru qu'elle pourrait contrôler la presse, qu'elle pourrait utiliser les paparazzis, qu'elle a fait par moments avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Mais malheureusement, presque toujours, la machine se retourne contre ceux qui pensent la contrôler.
Voilà, les manipulateurs manipulés, en quelque sorte. On va y revenir dans un instant dans ce focus. Alors, c'est pas la première fois, hein. Harry, depuis son retrait et son départ du Royaume-Uni, prend la parole.
I myself was trapped.
Il y avait eu cette interview chez Oprah Winfrey en 2021 dans laquelle il avait dit s'être senti abandonné par sa famille et prisonnier de ce qu'il qualifiait à l'époque de système. Il y a cette biographie, Spare, en gros le remplaçant, hein, ce qui est aussi factuellement le rôle du second enfant dans ces familles héritières. Est-ce qu'on retrouve là, Marie, là encore, un combat commun, Harry, Diana, contre ces conventions qu'impose l'appartenance à une famille royale ?
Oui, clairement, Harry dit même lui-même qu'il a toujours été un petit peu le rebelle de la famille, qu'il tient ça de sa mère et qu'il n'a pas changé depuis qu'il est tout petit. Donc oui, clairement, Harry essaye de dire qu'il est aussi libre que Diana, mais il a vu ce que ça a fait à Diana, il a vu que ça lui a coûté la vie. Déjà, ça lui a coûté son bonheur de ne pas vouloir rentrer dans le moule du palais, et ensuite ça lui a coûté sa vie en étant poursuivi par les médias. Et donc Harry dit, ne voulant pas reproduire finalement l'histoire qui est déjà arrivée, eh bien il a décidé de faire les choses complètement différemment et en cassant un petit peu la vaisselle en quittant la maison. Clairement, il n'a pas honte effectivement de dire que c'est sa vérité et qu'il estime que c'est vraiment le palais qui l'a forcé à prendre cette décision radicale, même si pour l'instant on n'a que un petit peu des notes d'intention, j'ai envie de dire, dans ces trois premiers épisodes. On verra si les trois prochains, effectivement, sont un petit peu plus directs dans ces accusations. Mais clairement, en tout cas, la pose de parallèle entre Harry et Diana, Diana et Meghan est clairement là dans les trois épisodes.
Diana, elle a été souvent qualifiée outre-manche de misfit, d'inadaptée, finalement, dans cette famille et cette couronne. Est-ce que c'est également ce qu'est Harry aujourd'hui, Adélaïde de Clermont-Tonnerre ?
Mais Harry l'a toujours été. C'est un jeune homme qui a très très souvent dit qu'il vivait comme une souffrance le fait de ne pas avoir, pensait-il, le choix de son destin, le fait d'être dans ses contraintes. Il avait d'ailleurs, ça avait créé un grand scandale, dit à un moment qu'aucun des hommes de sa famille n'avait choisi ce destin et aucun des hommes ne l'aurait sans doute choisi s'ils avaient pu faire autrement. Ensuite, il s'était rétracté de ses paroles. Donc ça fait très longtemps que Harry a du mal avec l'institution. Après, il y a eu tout un moment de grâce où Harry a trouvé sa voie, a été, rappelez-vous, c'était il y a encore relativement peu de temps, le membre le plus populaire de la famille royale. C'était le chouchou de l'opinion publique, des médias, des jeunes, parce que justement, il semblait s'épanouir dans ce chemin. Le problème, c'est qu'il s'est épanouissait seul, et c'est ce qu'il raconte dans le documentaire aussi, c'est que toutes ses petites amies, toutes les femmes avec lesquelles il a espéré construire sa vie, ont été absolument effrayées par ce qu'impliquait la vie avec le suppléant. Donc c'est la véritable attaque pour l'instant. Moi, je pense qu'à Buckingham et à Kensington, les équipes sont en train de déboucher le champagne en disant, pour le premier volet, on s'en sort très bien. Les attaques, elles sont essentiellement contre la presse, contre les paparazzi, contre les photographes, contre les réseaux sociaux et contre des discours haineux qui ont effectivement fait beaucoup de mal à Meghan quand elle a commencé à rentrer dans cette famille. Mais pour l'instant, ce ne sont pas des attaques contre la famille. Et ce sont, en revanche, il y a une attaque frontale contre l'institution, ça qui est très violente, sur un racisme structurel, un bilan qui est nécessaire à faire sur le passé esclavagiste et le Commonwealth en général. Et ça, c'est grave parce que c'est attaquer frontalement l'institution, c'est attaquer frontalement l'héritage de sa grand-mère, parce que l'œuvre de Elizabeth II, c'est le Commonwealth, c'est d'avoir réussi à tenir ensemble ces nations éparses. Donc c'est quelque chose qui est là beaucoup plus problématique.
Ouais, et puisque vous évoquez la presse justement et les attaques d'Harry contre les paparazzi dans ce document, documentaire, on va écouter un nouvel extrait.
La plupart de mes souvenirs grouillent de paparazzi. Quand on était en vacances, il y avait toujours un photographe pas loin, caché derrière un arbre ou un buisson. On était constamment soumis au regard du public, avec toutes les tensions, le stress et les larmes que ça implique. Et j'ai été témoin de tout ça. J'ai vu les larmes couler sur les joues de ma mère.
Alors, on sait évidemment que Diana et toute sa famille, forcément, étaient traquées, que Diana aussi avait été manipulée par le journaliste de la BBC pour cette fameuse interview choc en 1995. Dans laquelle elle avait dit à l'époque, ciblant Camilla, qu'ils étaient trois dans ce mariage avec Charles et que ça faisait beaucoup de monde. Mais Diana, dans le même temps, elle maîtrisait aussi sa communication. Elle savait faire passer ses messages quand elle voulait en faire passer. Est-ce que en ça aussi, Harry est le digne fils de sa mère, encore une fois, Marie ?
Écoutez, oui, un petit peu. Alors déjà, ce qui est intéressant avec cet extrait que vous avez joué, c'est que Harry, au début, avant de jouer dans ce documentaire, l'extrait de cette interview de Diana, il précise, on sait maintenant que cette interview a été obtenue de manière illégale. Et pourtant, ça ne le dérange pas d'en utiliser des extraits dans son documentaire. Donc, il y a clairement une petite contradiction là-dessus. Mais oui, Harry et Meghan ont maintenant une manière de gérer les médias qui est bien à eux et qui est assez professionnel. Par exemple, on sait que pour les livres, certains des livres qui ont été publiés ces dernières années, il y en a au moins un où le couple a clairement passé des informations en sous-main aux journalistes, alors qu'au début, on ne savait pas. Hein. Donc, clairement, ils ont en gros leurs entrées chez les auteurs et dans la presse pour faire passer leur message. Ils ont aussi tout un outil de communication que Diana n'avait pas. Diana n'avait pas de boîte de production, par exemple, qui pouvait avoir tout un arsenal de communicants. Eux, ils ont clairement ça avec leur boîte de production Archwell. Donc, ce sont devenus des professionnels de la communication. Et à un moment dans le documentaire, on voit Harry qui explique comment fonctionne la communication au palais. Il y a même un diagramme qui montre qu'il y a les journalistes qui assaillent le palais, il y a les communicants de la presse, et puis il y a la famille royale qui est censée être protégée par les communicants du palais. Mais selon Harry, non seulement ça ne marchait pas, et en plus, il y a eu des problèmes de communication entre, par exemple, Meghan et sa famille, qui, à cause de cet arsenal de communication royale, n'a pas pu être librement en contact avec des membres de sa propre famille. C'est en tout cas les accusations qui sont mises en place, qu'elle avait été séparée, notamment de sa nièce, à cause de cet arsenal de communication. Donc, clairement, ils sont en train de dire, voilà, on a été victime d'une stratégie de communication et Netflix, le livre qui va sortir bientôt et dans plein d'autres exemples précédents, ils ont maintenant leur réponse avec une armée de communicants pour protéger leur brand, comme on dit en anglais, leur marque, leur image.
Adélaïde ?
Moi, je trouve que c'est surtout plus encore que la stratégie de communication. On n'est pas encore arrivé là sur la partie qui avait fait l'objet de la rancœur de Meghan, et rancœur qu'on peut comprendre étant donné sa culture, le fait qu'elle n'a pas été protégée par le palais. C'est à peine évoqué encore dans ces trois premiers épisodes parce que pour l'instant, Meghan pense encore qu'il faut s'en tenir au never complain, never explain, que ça va passer, que tout le monde a eu cette sorte d'épreuve du feu. Et ce qui est vrai, toutes les nouvelles venues dans la famille royale ont traversé cette épreuve du feu. À l'époque de Fergie, c'était encore plus violent. Kate aussi a eu son lot d'articles extrêmement malveillants et désastreux. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Après, l'idée qu'il puisse totalement contrôler le discours et l'image, c'est pas si clair. Parce que là, on l'a bien vu avec Netflix, il y a eu quand même une prise de distance, par exemple, de Meghan avec, quand elle a fait son interview récemment pour The Cut, elle a dit « Nous avons confié notre histoire à la réalisatrice Liz Garbus, mais c'est peut-être pas comme ça que nous l'aurions raconté. » Elle dit, enfin, on sait qu'ils ont essayé par moment de couper certains extraits après la mort de la reine. On sait qu'ils n'étaient pas forcément d'accord pour que ça sorte maintenant. Ils auraient sans doute préféré que ça sorte en même temps que les mémoires, plutôt qu'on fonde de saper potentiellement un peu le contenu des mémoires, parce que là ils vont sur un terrain très privé. Donc c'est pas un contrôle parfait et totalement huilé. Et malheureusement, je crains que ça fasse un peu l'effet Diana, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça leur échappe. Ça leur a échappé par le passé. Alors, il y a eu des procès gagnés, il y a eu des procès moins gagnés, mais c'est très difficile de tenir une presse mondiale et une presse britannique en colère, parce qu'ils ont le sentiment d'être dépossédés par les Américains d'une histoire qui leur appartient.
Marie, d'ailleurs, il y a une question que je me posais. Quelle est la popularité aujourd'hui de Harry et plus largement de son couple avec Meghan outre-Manche?
Alors, ce sera certainement effectivement la faute dans leur stratégie de communication, c'est qu'elle est vraiment en direction des États-Unis, de l'Amérique du Nord, quitte à ce que ça leur fasse plutôt du mal à leur image au Royaume-Uni. Parce que vraiment, il y avait beaucoup de gens qui étaient très fans de Meghan, à qui j'ai même parlé et qui m'ont dit qu'ils sont très déçus et qui, depuis l'interview d'Oprah Winfrey, et que ce Netflix ne va certainement pas les réconcilier avec Harry et son épouse, surtout très peu de temps après la mort de la reine, surtout dans la manière dont la bande-annonce a été faite. Donc, clairement, la popularité d'Harry et Meghan, puisque maintenant, avant, on aimait Harry, on aimait moins Meghan, là maintenant, ils sont tous les deux peints avec avec le même pinceau, comme on dit, pour traduire une expression qui ne se traduit pas en français. Ils sont tous les deux assez peu aimés, on va dire, au Royaume-Uni, surtout parce que on a eu l'idée que pendant le jubilé, ils ont voulu venir et être filmés par ce documentaire Netflix, alors que c'était le moment de la reine. À partir de ce moment-là, au Royaume-Uni, alors qu'on essayait encore un petit peu de pardonner à Harry, quand on a vu qu'il a voulu se servir du jubilé de la reine pour se faire mousser, pour faire son documentaire, il y a vraiment, vraiment eu une cassure. Et là, le sortir si peu de temps après le décès de la reine, même si, effectivement, ils auraient peut-être voulu le repousser, ils en veulent à Harry et Meghan.
En plus, il y a évidemment un autre aspect dans la diffusion de ce documentaire. C'est aussi la part de business qu'il y a dans tout ça. Harry, il a signé un contrat avec une agence de communication new-yorkaise quand il allait s'installer aux États-Unis. Ces prises de parole, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, elles sont aujourd'hui systématiquement monnayées?
Alors, pas systématiquement. Quand il reçoit un prix, par exemple, de la fondation Kennedy, Robert Kennedy, dit non, là c'est pas monnayé, il a des prises de parole pour ses propres actions caritatives, ce n'est pas monnayé évidemment non plus. En revanche, c'est vrai que ils ont un train de vie quand même très important. Vous avez vu à quoi ressemble leur villa de Montecito, c'est 9 personnes qui travaillent quotidiennement plus 5 gardes du corps. Ils prennent des jets privés, ils sont habillés pas chez H&M, donc tout ça a un coût et un coût très important, et donc ils ont besoin de vivre. Donc même s'ils avaient une certaine fortune, puisque Harry avait quand même hérité de 20 millions de livres sterling de Diana, plus d'une partie de l'héritage de son arrière-grand-mère Queen Mum, ça va très vite, ça file très vite entre ces doigts-là, et du coup il a besoin de faire de l'argent. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il y a un tel désamour de la part des Britanniques envers lui, c'est-à-dire que déjà ils ont très très mal vécu la dernière saison de The Crown, les Britanniques, ils se sont sentis vraiment agressés dans leur identité et dans leur cœur, parce qu'il faut voir que c'est quelque chose de constitutif de la nation du Royaume-Uni que la famille royale, et ils ont l'impression que Harry a pactisé avec l'ennemi. En signant avec Netflix qui produit et The Crown et ce documentaire. Alors, la seule chose où il faut nuancer, c'est que pour les plus jeunes, qui sont moins attachés à l'institution monarchique, qui sont plus compréhensifs pour Meghan et Harry, ça peut quand même faire du mal d'avoir ces confessions qui les présentent à nouveau comme des victimes du système. Ça n'aidera pas le système à en sortir grandi. Et c'est vrai que l'analyse historique, on a une sorte de grand cours magistral sur l'histoire de l'esclavage et au Royaume-Uni, ça va pas faire du bien non plus, parce qu'il y a plein de gens qui prennent conscience que ce problème n'a absolument pas été traité.
Ouais, voilà. Donc Harry qui commence à mettre les pieds dans le plat finalement aussi avec ces trois premiers épisodes de cette série documentaire diffusée sur Netflix. Merci à vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue, et Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.